Le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ses membres se sont réunis la semaine dernière à Toulouse, dans les locaux de Météo France. C'est l'occasion de découvrir le fonctionnement et le rôle de cet organisme. Bonjour Valérie Masson-Delmotte.
Bonjour.
En plus de co-présider le groupe INDUGIEC, vous êtes chercheuse à l'université Paris-Saclay, au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors d'abord, cette question évidemment que tout le monde se pose, pourquoi est-ce à Toulouse que vous avez élu domicile la semaine dernière? Est-ce que la région fait l'objet d'une étude particulière?
En fait, c'est parce que nous avons été invités à nous réunir donc pour la préparation d'un rapport prévu pour avril 2021, sur la Météo Pôle par Météo France. Et ce sont souvent des collègues chercheurs qui proposent d'héberger les réunions de travail. Donc on s'est réunis précédemment en Chine et au Canada, dans des villes qui ont proposé de nous héberger pour ces réunions de travail.
Voilà, donc on comprend que c'est à Toulouse, ça aurait pu être ailleurs, c'est ça?
Oui, tout à fait, mais c'était un plaisir d'être à Toulouse.
Naturellement.
Des chercheurs français qui contribuent au rapport, à Météo France et au CERFAX à Toulouse même.
D'accord. Vous étiez 250, je crois, experts du climat. Combien de pays représentés?
Une soixantaine de pays différents.
60 pays différents. Alors, votre groupe, celui que vous co-présidez avec un Chinois, s'intitule « Les bases physiques du changement climatique ». Est-ce que cette séance de travail à Toulouse a donné lieu à quelques découvertes, des premières conclusions dont vous pouvez nous faire part?
Alors, je ne peux pas, bien sûr, partager les conclusions d'une évaluation qui est en cours, malheureusement. Ce que je peux juste mentionner, c'est que c'est une étape de travail. Donc, les chercheurs qui font la rédaction de ce rapport prévoient finalement de partager plus largement l'état des connaissances vis-à-vis du changement climatique, ce qui est observé, ce qui est compris des mécanismes, et puis quelles sont les projections d'évolution dans les prochaines décennies, les prochains siècles.
D'accord.
Et donc, ils avaient déjà fait une première version de texte, de chapitre, sur la base des publications scientifiques. Ils ont reçu plus de 23 000 commentaires de 750 relecteurs.
Oula,
donc,
ouais.
C'est la démarche scientifique, d'avoir toujours une relecture ouverte.
Mmh.
Et là, ils ont passé en revue donc ces commentaires et aussi les nouvelles publications scientifiques, les travaux les plus récents, en particulier en matière de modélisation du climat. Parce que, en fait, tous les groupes de modélisation du climat du monde viennent de commencer à contribuer les résultats de leurs nouvelles simulations. Et donc, on a les premières analyses qui émergent. Et donc, c'est quelque chose qui est très stimulant, ces réunions d'auteurs, parce que finalement, on a l'esprit critique collectif qui est là.
C'est un travail qui s'élabore, j'imagine, en co-construction. C'est toujours en mouvement, en fait, ce travail que vous faites.
Oui, alors, il y a parfois des choses qui sont mal comprises par rapport au GIEC. Donc, nous, on ne fait pas vraiment de recherche. On passe en revue l'état des connaissances sur la base des connaissances publiées dans les journaux scientifiques, de sorte à évaluer de la manière la plus objective, rigoureuse et transparente, ce qu'est aujourd'hui l'état des connaissances par rapport au changement climatique.
Vous faites part de cette réserve, et vous faites bien de le dire. On va creuser avec vous ce qu'est le GIEC, c'est l'occasion. Vous étiez, je le rappelle à ceux qui nous rejoignent, à Toulouse la semaine dernière. Ça existe depuis combien de temps, le GIEC, Valérie Masson-Delmotte?
Ça existe depuis 31 ans. Ça a été mis en place donc par l'Organisation météorologique mondiale et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, de sorte à fournir à tous les pays du monde un socle scientifique commun autour de l'état des connaissances. Et en faisant ça, on évalue ce qui résiste depuis 30 ans à l'examen critique, donc qui est une forme de vérité scientifique. On évalue ce qui est émergent, quelles sont les connaissances les plus nouvelles, mais pas forcément établies de manière aussi solide. On évalue où sont les controverses scientifiques et pourquoi elles existent par rapport aux éléments disponibles et à leurs limites.
Mmh.
Et bien sûr, en faisant cet exercice, on évalue aussi les limites des connaissances et donc finalement, quelque part, les voies de recherche à venir.
Créé il y a 30 ans, dites-vous, sous l'impulsion notamment de l'ONU, qu'est-ce qui, il y a 30 ans, a précipité la nécessité de créer cet organisme?
Alors, on avait en fait les premiers éléments scientifiques vis-à-vis de l'influence de l'homme sur le climat, à partir, je dirais, de la fin des années 1970, l'augmentation des rejets de gaz à effet de serre, l'observation d'un climat qui changeait, d'un niveau des mers qui montait, donc à la fois des briques de connaissances pour les observations, la théorie, la compréhension des processus et des outils de modélisation qui étaient à l'époque balbutiants. Et on était aussi dans un contexte où l'ONU avait mis en place de manière réussie une organisation internationale pour avoir une évaluation par rapport à la destruction de la couche d'ozone de la haute atmosphère.
Et oui, à l'époque, quand j'étais petite, on parlait de la couche d'ozone. On n'en parle plus aujourd'hui.
On en parle toujours parce que on a, d'un point de vue international, banni la production de substances qui conduisent à la destruction de la couche d'ozone. Mmh. Cette destruction est toujours là. Mmh. On a les premiers signes d'une récupération.
C'est ça.
On a aussi parfois l'identification de pays qui continuent à utiliser ces substances néfastes.
Valérie Masson-Delmotte, vous nous avez dit, hein, beaucoup de pays étaient à Toulouse, beaucoup de pays composent, constituent les membres du GIEC. Vous-même, comment est-ce que vous avez été, comment vous êtes devenu membre du GIEC? Comment on devient membre du GIEC? C'est nommé, c'est quoi?
Alors, il y a plusieurs rôles. Il y a le rôle des auteurs des rapports. Mmh. Il y a aussi le rôle de ceux qui font partie de ce bureau du GIEC qui supervise la préparation des rapports.
Mmh.
Donc, pour faire partie de ce bureau du GIEC, il faut être proposé par son gouvernement.
Mmh.
Et ensuite, il faut être élu par les délégués de l'ensemble des pays. Et c'est un rôle de coordination, de supervision scientifique.
Mmh.
On a aussi des auteurs des rapports qui sont des chercheurs. Eux-mêmes donc sont présentés, leur candidature pour rédiger les rapports est présentée, soit par un pays, soit par une organisation scientifique, soit par un membre du bureau du GIEC. Et leur sélection, elle se fait sur la base de leur expertise et donc de leur publication scientifique.
Mmh, mmh, mmh. Et alors, comment ça marche? On l'a vu, vous étiez à Toulouse la semaine dernière, vous écrivez des rapports spéciaux, puis des rapports d'évaluation. Qui vous commande les sujets d'études?
Alors, les rapports principaux, donc les bases physiques du changement climatique,
ouais,
les impacts, vulnérabilités et solutions en matière d'adaptation, et puis les solutions en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce sont les trois groupes.
Ouais.
Eux doivent faire à chaque fois, à chaque cycle d'évaluation, un rapport complet. Ce sont des rapports de 1000-1500 pages très détaillés.
Mmh.
Et puis ensuite, en fonction des demandes des différents pays, on va également préparer des rapports thématiques, des rapports spéciaux. Et au début de ce sixième cycle, en 2015, on a reçu 31 demandes de rapports spéciaux. Donc il y a une attente qui est vraiment sans précédent du côté des différents gouvernements, d'une information scientifique rigoureuse. Et donc pour ce cycle, on prépare trois rapports spéciaux. Donc celui de 2018 qu'on a déjà rendu sur 1,5 degré de réchauffement planétaire.
Oui, bien connu, oui. Mmh.
Celui qu'on a rendu au mois d'août dernier sur le changement climatique et l'utilisation des terres.
Ouais.
Et celui qu'on finalise pour le mois de septembre.
Oui, qui est un peu fuité déjà. Ouais.
Les océans, les glaces dans un climat qui change. Mmh. Et on est en train de le finaliser.
Et vous dites qu'ils sont demandés par différents pays.
Tout à fait. Donc on reçoit des demandes de différents pays. Nous, on examine la pertinence d'un point de vue scientifique de le faire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a vraiment,
d'accord,
des éléments scientifiques nouveaux en quantité suffisante. Et par contre, les gouvernements, eux, le regardent à l'angle des implications pour la société. Et par exemple, le rapport sur les océans et les glaces, il va toucher aux hautes montagnes. C'est une demande très forte qu'on a eue, par exemple, des pays riverains du Tibet.
Et on imagine, oui.
Ou des pays comme la Suisse, dont l'activité économique est fortement conditionnée par ce qui se passe au niveau des glaces dans les montagnes.
Mmh.
On va toucher aux régions polaires, une demande très forte des pays riverains de l'Arctique.
Mais ces demandes, pardonnez-moi Valérie, oui, Masson-Delmotte, ces demandes très fortes, est-ce qu'elles vous rendent moins libre?
Non, pas du tout, parce qu'en fait c'est une demande d'aborder l'état des connaissances par rapport à certaines thématiques.
Mmh.
Et donc au départ on avait reçu des propositions sur les glaces d'un côté et sur l'océan de l'autre, et l'océan avec ses implications par exemple pour les pêcheries, pour les écosystèmes marins. Et nous, on a mis tout ça ensemble parce que l'océan et les glaces interagissent sur la question de la montée du niveau des mers, qui touche tous les pays qui ont un littoral, et tout particulièrement les petits États insulaires.
Mmh.
Et donc ça avait un sens de regrouper différentes demandes du point de vue des pays dans un rapport qui a une cohérence scientifique et qui met ensemble ces différents sujets.
Alors il y a quand même une question que je me pose, c'est que pourquoi ces rapports que vous publiez, souvent dont la presse fait ses choux gras avec plus ou moins de fracas, pourquoi ça n'est que consultatif? Pourquoi est-ce qu'ils ne contraignent pas les États?
Alors nous, on a pour mandat d'être neutre, c'est-à-dire de ne pas faire de recommandations, d'examiner l'ensemble des options d'action disponibles, et à chaque fois, quels sont leurs bénéfices et quels sont les risques d'effets indésirables, d'un point de vue factuel le plus objectif. Et ça permet finalement de séparer le constat scientifique que nous fournissons des négociations sur le climat, où les différents pays vont ou pas utiliser ces éléments scientifiques par rapport au choix de politique publique ou de politique internationale par rapport à l'évolution du climat et aux actions à mener.
Vous préservez votre liberté de cette manière, en quelque
sorte. On préserve l'indépendance scientifique.
Alors, il est temps tout de même de nous faire état de ce qui fait consensus aujourd'hui sur l'état de la planète. Hein. Vous nous l'avez dit, le GIEC a 30 ans, un peu plus de 30 ans d'existence. Le climat se réchauffe, nous dites-vous, dans quelle proportion et depuis combien de temps?
Alors, on est à environ 1 degré de réchauffement à la surface des océans et des continents, donc à la surface de la Terre, depuis la fin du 19e siècle. Le réchauffement, il est plus marqué au-dessus des continents. En France, par exemple, on en est à 1,4 degré de réchauffement. Et ce réchauffement, il est dû aux conséquences des activités humaines. Mmh. Nos rejets de gaz à effet de serre, piège de la chaleur qui ne part plus vers l'espace, c'est la cause de ce réchauffement. Et c'est en partie masqué par l'effet refroidissant des particules de pollution.
Mmh, mmh. Et alors ça, c'est quelque chose d'établi. On a parlé tout à l'heure de la couche d'ozone qu'on a fini par pouvoir récupérer. Est-ce que c'est totalement irrémédiable, ce réchauffement?
Oui, on ne peut pas revenir en arrière, en particulier parce que plus de 90% de cette énergie supplémentaire a été emmagasinée dans les océans, qui vont la restituer à l'échelle de plusieurs siècles, à de l'ordre d'un millier d'années. Donc on ne peut pas revenir en arrière. Si on veut stabiliser le réchauffement à venir, ce qui est essentiel, c'est de réduire très fortement dans le monde entier les émissions de dioxyde de carbone, parce qu'il est très particulier, ce gaz à effet de serre, il a un effet cumulatif. Donc l'évolution future du climat, elle va dépendre des émissions de dioxyde de carbone qui viennent de l'utilisation du charbon, du pétrole, du gaz et de la déforestation, non pas aujourd'hui, mais passé, présent et futur. Mmh. Donc là, c'est très particulier. Mmh. Et par exemple, si on veut contenir le réchauffement planétaire simplement autour de 1,5 degré, dans ce cas-là, il faut arriver à environ net zéro émission de dioxyde de carbone d'ici 2050. Mmh. Mais il faut aussi baisser l'effet sur le climat des autres composés que nous émettons, par exemple le méthane, qui est un autre gaz à effet de serre très puissant, et l'effet net de toutes les particules.
Un dernier mot, Valérie Masson-Delmotte. On entend parfois s'élever des voix qui, sans forcément remettre en question le réchauffement climatique, dénoncent le caractère parfois alarmiste de vos prévisions. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Alors en fait, nous, on est instrumentalisés sur la place publique. Donc on nous accuse parfois d'être conservateurs, pas assez prescriptifs. Ou alarmiste, moi j'invite tout un chacun d'abord à aller sur le site web du GIEC, ipcc.ch. Les résumés de nos rapports sont disponibles en français. Par contre, le corps des rapports, les chapitres, ils sont rédigés en anglais parce que c'est la langue de travail des scientifiques du monde entier. Mm-hmm. Vous verrez en fait à quel point chaque conclusion, elle est tracée par rapport à la littérature scientifique.
C'est la méconnaissance qui vous fait autant de critiques, qui vous vaut autant de critiques?
En fait, nous, on exprime chaque conclusion aussi avec un niveau de confiance qui peut être faible, moyen et élevé. Donc vous allez voir en fait le soin qu'on apporte à la formulation précise de chaque conclusion. Et par contre, parfois, les médias sont à la recherche de sensationnalisme ou d'alarmisme. C'était typiquement le cas sur la manière dont certains ont choisi de traiter les fuites d'un rapport qui n'est pas abouti aujourd'hui sur les océans et les glaces, avec le choix d'avoir cet angle-là, sans refléter
le contenu du rapport.
L'évaluation complète que nous faisons, en particulier en mettant l'accent sur les solutions.
Merci beaucoup Valérie Masson-Delmotte. Tout ça est très clair. Je rappelle que vous êtes coprésidente du groupe 1 du GIEP, groupe 1 qui s'est réuni la semaine dernière à Toulouse. Merci à vous.